Je dis que les légions romaines dévasteront nos terres et réduiront à néant nos coutumes et nos croyances.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour débuter une nouvelle série du fil de l'histoire. Cette semaine, on parle des Gaulois. Connaissons-nous vraiment les Gaulois? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h50, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h sur France Inter. Des Gaulois, les images d'Épinal ont la vie si dure qu'elles se sont quasiment implantées, collées dans notre cerveau. Des guerriers farouches, incorrigibles réfractaires, blonds à longues moustaches, casques ailés sur la tête, chasseurs de sangliers, bons vivants portés sur la cervoise tiède et la gaudriole, autrement appelée gauloiserie, druides à barbichette cueillant le gui dans la forêt. Mais nous aurions tort de croire que notre imaginaire gaulois ne s'est nourri que de la lecture, ô combien délectable d'ailleurs, d'Astérix. Uderzo et Goscinny n'y sont pour rien en réalité, car le mal, si l'on peut dire, remonte à beaucoup plus loin. L'image du Gaulois violent, fruste et mal dégrossi, auquel Rome aurait apporté la civilisation, date du 1er siècle avant Jésus-Christ, lors de la conquête romaine. Et depuis des millénaires, elle n'a cessé d'être reprise et relayée. Au XVIIIe siècle encore, Voltaire considère avec horreur notre passé gaulois. Il faut, dit-il, détourner les yeux de ces temps horribles qui font la honte de la nature. Au XIXe siècle, au contraire, les historiens en quête d'identité nationale consacrent les Gaulois comme ancêtres originels des Français et créent des légendes autour du premier héros national, Vercingétorix. Des traditions pour le moins contradictoires que l'historien Ernest Lavis, grand auteur de manuels scolaires, réconcilie en parlant des Gaulois, barbares, hirsutes, indisciplinés, mais, précise-t-il, braves, intelligents et gais. Ce sont donc de tous ces stéréotypes que nous devons nous débarrasser pour tenter de savoir qui étaient vraiment les Gaulois. Nous le faisons cette semaine avec vous, Dominique Garcia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et historien, professeur des universités, président de l'INRAP, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Nous allons voir en effet à quel point c'est l'archéologie qui a permis ces dernières années de renouveler totalement notre connaissance de ces fameux Gaulois. Et vous êtes l'auteur, notamment en 2025, de « Les Gaulois », un excellent ouvrage de vulgarisation et de mise au point sur le sujet, édité par le CNRS.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
En 58 avant Jésus-Christ, le proconsul romain Jules César, âpre au gain et grand stratège, déclenche la conquête de la Gaule. Une conquête rapide en seulement 6 années, vers l'ouest, jusque dans l'actuelle Bretagne, et vers le nord. César traverse la Tamise vers l'actuelle Angleterre et le Rhin vers l'actuelle Allemagne. Une conquête qui aboutira en moins 52 à la capitulation gauloise à Alésia. Dans le compte-rendu militaire qu'il rédige chaque jour pour l'envoyer au Sénat à Rome, Jules César, en parlant bien sûr de lui à la troisième personne, décrit les pays et les peuples qu'il soumet et les armées qu'il combat. Dès le début de son livre « La guerre des Gaules » des Bello Gallico en latin, Jules César dresse le tableau, simplifié à l'extrême, mais qui pendant longtemps vaudra référence, des territoires qu'il conquiert. « Toute la Gaule, écrit Jules César, est divisée en 3 parties. L'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, et la troisième par ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la nôtre, Gaulois. »
Alors nous, en réalité, on est des Carnutes, des Édouins, des Bituriges, des Séquanes, des Parisis, des Rèmes, des Lingons, des Atrébates, des Pictons, des Ambiens, des Meldes, des Vénètes, des Allobroges, des Bélovaques, des Cadurques, des Rutènes, des Véliocas, des Volques, des Lémovis.
Des Gaulois, quoi.
Dominique Garcia, j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce qu'on appelle les Gaulois, de quoi on parle. Vous écrivez dans votre livre que c'est à César que l'on doit l'invention de la Gaule.
Le mot gaulois est un mot qui veut dire quelque chose en gaulois. Gaulois, ça veut dire gaillard, vaillant. Et il y a probablement un de ces nombreux peuples celtiques qui s'appelaient les Gaulois, qui ont été visités ou en contact avec les Romains, et qui ont donc emprunté le nom de ce peuple, et ensuite l'ont étendu à tout l'espace qu'ils allaient conquérir. Donc on peut imaginer que les Gaulois, au départ, soient un peuple des Alpes ou du nord de l'Italie, qui ne parlaient pas donc le latin, qui étaient considérés comme des barbares, et les Romains, à leur rencontre, disent « tiens, entre guillemets, voilà ». Les Gaulois. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans cet espace-là, ils vont répandre ce terme en englobant l'ensemble des tribus. Aujourd'hui, on en liste 60 ou 70. On va dire qu'il y en avait une par département ou par grand département actuel.
Oui, donc cette division que Jules César donne en trois parties comme ça, c'est complètement arbitraire.
Alors, pas tout à fait, c'est de l'habileté de ce général militaire qui intervient donc pour conquérir un espace. Et en bon militaire, il va définir l'espace qu'il va conquérir. Il a besoin de poser des limites. Et à ce moment-là, bien entendu, les Pyrénées sont une limite géographique bien simple. Même chose pour l'Atlantique, pour la Manche. Et il a besoin de poser une autre limite et il va la poser sur le Rhin. Et donc, il va définir d'un côté les Gaulois, de l'autre les Germains, l'ensemble étant des populations celtiques qui s'étendaient sur un espace beaucoup plus large, dont la Gaule a été inventée effectivement par César en définissant son territoire.
Et les Gaulois et les Celtes, alors quelle est la différence entre les deux ?
Alors là aussi, César nous le dit, d'autres auteurs, notamment Pausanias nous le dit, on nous dit ce qu'on appelle aujourd'hui nous les Gaulois, eux s'appelaient les Celtes. Alors les Celtes sont une population qui a été localement implantée depuis au moins 1000 ans. C'est-à-dire là, on commence l'histoire des Gaulois par la fin, par le moment où ils vont être soumis par le général romain. En fait, les Celtes occupent ce territoire depuis la fin de l'âge du bronze, le début de l'âge du fer, on va dire vers 1000 avant Jésus-Christ. Et c'est des populations qui s'étendent de l'Atlantique jusqu'au Danube, avec comme unité principale une langue d'origine indo-européenne, le celte, des religions très proches, et ils sont en fin de compte une mosaïque de peuples, dont va être détaché l'espace gaulois défini par César et l'ensemble des tribus celtiques sur l'espace qui est aujourd'hui la France.
Et pourquoi y a-t-il plus de Celtes du côté breton, Grand-Breton, Irlande, Écosse ?
Alors ça, c'est une appropriation extrêmement récente. C'est des populations qui ont été les moins romanisées, après la conquête, et ensuite, à partir du 19e siècle, de manière identitaire, se sont attribués ces racines plus que d'autres. En fin de compte, vers 1000 avant ou vers 500 avant, on n'est pas plus celte en Bretagne, en Languedoc, en Auvergne, que dans les Hauts-de-France, mais en revanche, dans des périodes récentes, on s'attribue cette identité plus forte en Bretagne ou dans les îles britanniques.
Alors, dans votre livre, Dominique Garcia, vous donnez une carte des principaux peuples gaulois au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est absolument fascinant. Certains noms sont connus, les Allobroges, les Vénètes, les Helvètes, les Arvernes. Mais la plupart, je n'en avais jamais entendu parler, les Véliocas, les Médiomatris, les Bayocas, les Viromanduins, j'en passe. Comment ces noms de peuples sont parvenus jusqu'à nous ? Ce sont des inscriptions sur des objets ?
Alors, on retrouve ces noms sur des monnaies, on retrouve ces noms sur des inscriptions tardives, et on trouve aussi ces noms dans les textes de César quand il se frotte à eux d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que cette mosaïque de peuples est reconstituée, ce sont des peuples soi-disant, dits par d'autres. À un moment donné, ils sont nommés, et quand ils sont nommés, ils sont fixés dans le cadre d'un processus colonial assez classique. On dit « ils sont là, les Parisiens sont les gens qui se retrouvent autour de Lutèce », et à ce moment-là, on les fixe géographiquement.
Dernière chose, Dominique Garcia, est-ce que les Gaulois parlent la même langue ?
Alors, ils parlent une langue qu'on appelle le celtique continental, qui est commun aux populations, je vous disais, du Danube jusqu'à l'Atlantique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des variations dialectales, mais qu'ils devaient se comprendre. Notamment César, quand il entreprend cette conquête des Gaules, va embaucher un interprète dans la région de Vaison-la-Romaine, et cet interprète va dialoguer avec des Gaulois dans la région Alsace-Lorraine. Alors, il le faisait peut-être en gaulois avec l'accent du Midi, mais en tout cas, en ce sens-là, les Gaulois n'étaient pas si différents des Grecs ou des Étrusques, où il y avait aussi des variations dialectales de région en région, d'île en île, voire de cité en cité.
Et comment on arrive à savoir ça ?
Là, l'exemple de César qui prend l'interprète montre bien qu'il avait besoin de quelqu'un qui parlait la langue et que ça lui a été utile. Et ensuite, on a aujourd'hui des noms de villes. Quand on va à Verdun, ça porte le nom, un nom gaulois. Quand on est dans les Parisiens, porte le nom des Parisiens. Donc on retrouve les racines, la toponymie, l'onomastique permet aujourd'hui de reconstruire un corpus gaulois.
Merci Dominique Garcia. Dans le prochain épisode, nous parlerons des mœurs des Gaulois.